Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Elle ne masque pas ses ambitions et a déjà annoncé qu'elle serait candidate à la présidentielle de l'an prochain. Ce sera son troisième tour de piste. Aujourd'hui, tous les sondages la qualifient pour le second tour et elle espère bien prendre sa revanche sur Emmanuel Macron. Alors que le chef de l'État a choisi de porter le débat sur les questions d'insécurité, Marine Le Pen sera dans un quart d'heure l'invitée d'RTL Soir pour lui poser vos questions. Écrivez-nous via l'application RTL ou les réseaux sociaux ou appelez-nous dès maintenant au 3210. Marine Le Pen dans RTL Soir, c'est à 18h15. Bonsoir Aude Vernuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mardi 20 avril.
Un jour de congé par mois pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Expérimentation inédite dans une entreprise de Montpellier. Ce sera dès le début de ce journal. L'Agence européenne du médicament donne son feu vert au vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson. Et puis on parlera du président tchadien mort sur le champ de bataille.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, revoilà la pluie.
Oui, essentiellement dans le sud-est où ça restera gris et pluvieux toute la journée avec de la neige en montagne. Le matin, on profitera quand même d'un beau soleil sur la moitié nord après dissipation de quelques grisailles. Et puis dans la journée, un ciel variable entre les Pyrénées, le Limousin, le nord-est avec une petite averse possible. Mais sur l'ouest du pays et l'extrême nord, ça restera sec et agréable. Le tout sous des températures en hausse et pas de gelée demain de 13 à 20 degrés pour les maximales.
Bonne nouvelle, merci Peggy.
RTL Soir.
C'est la première cause d'absentéisme au travail pour les femmes, selon le site de l'assurance maladie, les règles douloureuses. 30 à 50% des femmes s'en plaignent. Face à cette réalité, une entreprise de Montpellier propose désormais un congé menstruel. C'est inédit. Les salariés ES peuvent, depuis le 1er janvier, poser une journée. Ni justificatif, ni perte de salaire, Gauthier Delon-Bugard.
Oui, c'est d'abord l'idée d'une employée. Elles sont les 16 femmes salariées de la société. Presque toutes souffrent de leurs règles. Cela gêne même parfois leur travail. Le projet de congé menstruel est donc présenté en Assemblée Générale et voté à la quasi-unanimité par les femmes et les hommes. Dimitri Lamoureux est le co-gérant de la coopérative La Collective.
Des salariés femmes pouvaient, en période de menstruation, être dans une situation compliquée pour pouvoir exercer effectivement leur travail. Et donc, on a décidé de permettre à toute femme salariée, La Collective, donc de pouvoir poser un jour par mois de manière facultative sur son temps de travail effectif sans avoir besoin de le justifier par un quelconque motif, si ce n'est de nous prévenir par un mail.
Le congé est entièrement pris en charge par l'entreprise, une mesure saluée par les salariés qui passent leur journée à démarcher les passants pour récolter des dons pour les ONG.
Rester debout toute la journée quand on a des règles extrêmement douloureuses, en étant parfois plié en deux, en parlant aux gens, en étant mobile, c'est pas évident. J'étais obligée parfois de prendre des jours de RTT. Quand on prend deux jours dans le mois et qu'on n'est pas payé, évidemment, il y a une inéquité quand même qui est là. Donc cette journée, c'est très salvateur pour les femmes qui travaillent à la collective.
9 congés menstruels ont été posés depuis le 1er janvier, sans gêner le fonctionnement de l'entreprise.
Les explications de Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Alors, bonne ou mauvaise mesure en termes d'égalité homme-femme, étonnamment, la porte-parole du collectif d'Oser le féminisme, Fabienne Alcoury, n'y est pas favorable.
On pense que ça sera une fausse bonne idée, pour plusieurs raisons. On a peur que beaucoup de femmes vont hésiter à prendre ce congé par peur d'être stigmatisée. On peut aussi avoir un risque d'augmenter la discrimination à l'embauche. Déjà, on sait que dans certaines boîtes, on hésite à embaucher des femmes car on a peur qu'elles vont être enceintes et elles vont avoir des congés maternité, par exemple. Et on a peur aussi qu'on va embaucher plus les hommes que les femmes car on va dire qu'un jour par mois, ces femmes, on va les payer alors qu'elles ne seront pas disponibles.
Fabienne Alcoury, porte-parole d'Oser le féminisme.
Dans l'actualité également, de nouveaux métiers dans la liste des travailleurs de deuxième ligne qui vont pouvoir se faire vacciner.
400 000 salariés de moins de 55 ans qui auront dès ce week-end des créneaux dédiés dans les centres de vaccination, notamment les conducteurs de bus ou encore les caissiers, Anaïs Bouissou.
Oui, comptez aussi les taxis, les agents d'entretien, les salariés et les artisans des boulangeries, pâtisserie, charcuterie, les salariés des pompes funèbres. En tout, c'est une liste d'une vingtaine de métiers pour lesquels les salariés sont obligés de se rendre au travail et des salariés qui croisent du monde. Dès lors qu'ils ont plus de 55 ans, ces salariés auront des créneaux prioritaires pour se faire vacciner avec du AstraZeneca à partir de ce week-end et sur présentation d'un bulletin de salaire ou d'une attestation sur l'honneur. Pour tous ces salariés à risque, le ministère du Travail incite les employeurs à prévoir des autorisations d'absence pour pouvoir se faire vacciner dans la mesure du possible, même durant le temps de travail.
Anaïs Bouisseau pour RTL. Bientôt un quatrième vaccin. L'Agence européenne du médicament donne son feu vert pour le Johnson & Johnson. Pour le docteur Sabine Strauss, qui fait partie des experts de l'EMA, elle estime que le risque de caillot sanguin doit simplement être inscrit dans les effets secondaires rares.
Tous les cas de caillots sont répertoriés aux États-Unis. Un pendant les essais cliniques et donc 7 autres après l'autorisation du vaccin aux USA. Actuellement, il y a plus de 7 millions d'Américains vaccinés avec Janssen. Les cas concernent principalement des femmes de moins de 60 ans et moins de 3 semaines après la piqûre. L'agence estime donc que les bénéfices l'emportent sur les risques et que le vaccin anti-Covid de Janssen est efficace contre les infections causées par la Covid.
Le docteur Sabine Strauss de l'Agence européenne du médicament qui répondait à Bénédicte Tassard. La haute autorité de santé en France, cette fois, doit maintenant se prononcer. 200 000 doses déjà livrées sont prêtes à être distribuées. Selon le ministère de la Santé, ce vaccin est indispensable pour atteindre l'objectif des 20 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-mai.
Ils étaient plusieurs centaines à se rassembler aujourd'hui devant les tribunaux de France. Des policiers en colère après le verdict du procès en appel de Viry-Châtillon. 4 fonctionnaires attaqués et brûlés en 2016. Sur les 13 jeunes jugés en appel, 8 ont été acquittés. Alice Moreno, bonsoir.
Bonsoir.
Au regard de l'enquête, qu'est-ce qui a motivé la décision des jurés ?
Eh bien, il n'y a pas d'éléments de preuve suffisants contre ceux qui ont été acquittés. C'est écrit en ces termes dans l'arrêt de motivation de la cour d'assises qu'RTL a consulté. On parle d'une enquête qui porte sur une scène ultra-violente, c'est vrai, mais aussi très brève. Les faits se déroulent sur quelques dizaines de secondes seulement et les 16 assaillants avaient pris le temps de dissimuler leur visage. Les identifier s'est avéré particulièrement complexe. Certains d'entre eux ont été mis en cause sur la base de seuls témoignages qui parfois se contredisaient. Ceux qui ont été acquittés ont nié leur implication lors de leurs interrogatoires. Non, ils n'étaient pas au carrefour du fournil au moment de l'attaque. Leurs alibis sont solides, leurs déclarations constantes et leur téléphone effectivement bornait à leur domicile par exemple. Quant aux hommes qui ont été condamnés, j'égrène quelques éléments de preuve, des déclarations changeantes qui ne collent pas au bornage téléphonique, des brûlures aux mains pour l'un imputable au jet de cocktail Molotov et même de timides aveux pour certains.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
Petite pause et dans un instant on va au Tchad après la mort du président tchadien Idriss Déby. C'est un allié de la France dans la lutte anti-djihadiste qui a été tué.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal Aude Vernicchio. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle et c'est déjà l'heure des comptes. Où en sont donc les comptes des principaux partis politiques ?
La commission a rendu son rapport ce week-end sur l'exercice de l'année 2019. 6 partis sont dans le rouge, dont le parti de la présidente du Rassemblement National. La candidate a beau être au plus haut dans les sondages, son parti, lui, accumule 23 millions d'euros de dette, Marie Mollet.
Oui, exactement. Le RN reste le premier parti de France de la dette que Marine Le Pen tente péniblement d'éponger, alors elle a mis son parti à la diète. Plus d'alcool, plus de première classe, sourit un cadre. Économie sur les frais de bouche, les voyages, les effectifs ont aussi été dégraissés. Et surtout, le parti ne donne plus un copec à ses candidats pour les élections. Municipales, régionales, chacun est prié de se débrouiller, voire de piocher dans sa cassette personnelle, en attendant d'être remboursé par l'État après l'élection. Ce qui nous amène à la présidentielle l'an prochain. Où le RN va-t-il trouver l'argent pour la campagne ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas, avoue l'état-major. Les banques refusent toutes de lui prêter. Alors, pour renflouer les caisses, le parti a créé une arme maison, l'emprunt patriote, contracté directement auprès des Français. Montant recherché pour 2022, 15 millions d'euros tout de même. Il va falloir que les électeurs du RN se montrent très très généreux.
Les comptes qui sont faits ce soir par Marie Mollet. Et je vous rappelle que dans un instant, à 18h15, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, sera l'invitée d'RTL Soir. La France perd un ami courageux, déclaration de l'Élysée ce soir par communiqué.
Le président tchadien Idriss Déby est décédé ce week-end, annonce faite aujourd'hui par l'armée, à peine réélu, grand allié de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Un président qui est mort au combat, sur le champ de bataille, des suites de ses blessures, Christophe Decroix.
Oui, le président tchadien était monté au nord du pays pour faire face à une énième attaque de rebelles venus de Libye, et c'est là qu'il aurait, selon un porte-parole de l'armée, trouvé la mort.
Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille.
Alors, on ne sait pas s'il est vraiment mort au combat ou s'il a été tué à l'issue d'une rencontre avec les chefs rebelles. Ces derniers, en tout cas, avaient annoncé sa mort dès hier, alors qu'elle n'était même pas mentionnée par les autorités tchadiennes. Derbi était un militaire de carrière, formé en France, avant de devenir président à la faveur d'un putsch contre Hissène Habré en 1990. Mais malgré plus de 30 ans de présidence, il aimait toujours se présenter en guerrier, on le voyait souvent en battle dress. Ce n'était pas la première fois qu'il montait au front. En août dernier, il avait encore commandé en personne une offensive dans la région du lac Tchad, contre les djihadistes de Boko Haram. Il les avait poursuivis jusqu'à l'intérieur du Nigeria voisin. Dans un communiqué, l'Élysée estime que le Tchad perd un grand soldat et la France perd de fait un allié de poids dans la lutte contre les djihadistes au Sahel.
Merci à vous Christophe Decroix. En Russie, inquiétude sur l'état de santé de l'opposant Alexei Navalny. Selon son avocat qui lui a rendu visite, il serait très faible après 3 semaines de grève de la faim. Il réclame son transfert dans un hôpital civil de Moscou.
Il y a du foot ce soir, pardon.
Tout à fait.
Pressé. C'est la Coupe de France.
Mais c'est normal, 2 rendez-vous en plus ce soir. Rumi qui affronte Toulouse à 18h45 en quart de finale, puis Canet-le-Roussillon qui affrontera Montpellier, coup d'envoi à 21h.
Et bien sûr, on suivra notamment le coup d'envoi de Rumi-Toulouse à partir de 18h45 et dans RTL Soir, la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
La bonne nouvelle, c'est un triomphe sur le petit écran. Plus de 70 millions de Français ont déjà vu cette série sur Netflix.
Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. Un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette et qui vaut des millions. Sauf que la vente, elle va pas se passer comme prévu. Parce que ce collier, on va le voler.
Le gentleman cambrioleur incarné par Omar Sy. Il y aura d'ailleurs une deuxième saison cet été et l'acteur a encore du mal à réaliser.
C'est toujours des moments assez dingues. C'est un peu le même phénomène que j'ai pu vivre avec Intouchables, c'est-à-dire la surprise, mais là vraiment la très très grosse surprise. Netflix, c'est un peu les JO des séries, quoi. Tous les pays sont représentés, et donc nous on avait le drapeau français, il fallait juste bien représenter la France, et se trouve que je crois qu'on a une médaille, et donc c'est cool.
L'acteur Omar Sy qui était l'invité de Laissez-vous tenter ce matin sur RTL.
C'est 70 millions de personnes dans le monde, on n'a pas encore 70 millions de Français.
On n'y est pas loin.
Merci à vous et à tout à l'heure. Dans un instant, c'est donc Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National et candidate à la présidentielle, qui est l'invité d'RTL Soir. Pour vos questions, c'est au 3210.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Présidente du Rassemblement National, elle est déjà officiellement candidate à l'élection présidentielle de l'an prochain. Marine Le Pen est donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Marine Le Pen.
Bonsoir.
Alors on l'a lu avec sa longue interview dans le Figaro. On l'a vu hier à Montpellier. Emmanuel Macron a lancé une offensive sur les questions de sécurité. Concrètement, on verra plus de bleus sur le terrain en 2022 qu'en 2017, a dit le chef de l'État. Et de fait, il a déjà recruté 6200 policiers et gendarmes depuis le début du quinquennat. Il affirme qu'il y en aura 2000 de plus cette année. Est-ce que sur cette question, vous diriez qu'Emmanuel Macron fait le job ?
Non. Emmanuel Macron ne fait pas le job. En réalité, il minore les faits et il majore les effets de sa politique. Pour que ceux qui nous écoutent puissent apprécier les chiffres, il y aura, lorsque Emmanuel Macron arrivera à la fin du quinquennat, autant de policiers qu'en 2007. Or, vous imaginez bien...
Mais il y en aura 10 000 de plus par rapport à
2017. Non, mais vous imaginez bien que depuis 2007, la criminalité a évidemment explosé. Et que donc, il faut tenir compte de cette situation. D'autant que dans ces embauches, il y a énormément d'adjoints de sécurité, beaucoup de très jeunes qui sont envoyés sur le terrain, bien souvent dans des endroits difficiles, avec un déficit d'encadrement, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc,
quand on
recrute
des policiers, nécessairement, ils sont jeunes au début.
Non, parce qu'un des meilleurs moyens aussi, c'est de pouvoir conserver les policiers qu'on a formés. Or, beaucoup de policiers s'en vont, ils quittent la profession. Et ils la quittent parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils attendent, parce qu'ils n'ont pas le soutien de leur hiérarchie qu'ils attendent, parce qu'ils sont systématiquement mis en cause, comme Emmanuel Macron a pu les mettre en cause en évoquant le délit de faciès, en évoquant les violences policières. Donc, quand on est payé modestement et de surcroît, on risque sa vie.
Policières. Elle a dit qu'il pouvait y avoir. Il n'y a pas de violence systémique de la police ni de racisme systémique dans la police, a-t-il dit.
Il a parlé de violence policière dans son interview à Brut. Lorsque vous risquez votre peau, lorsque les agressions à l'égard des forces de l'ordre ont doublé en 15 ans et que de surcroît, le président de la République vous met en cause de manière quasi systématique, oui, on part et on fait autre chose.
Mais
donc,
Marine Le Pen,
c'est bien d'embaucher, mais c'est bien aussi de conserver dans ses rangs des gens qui ont une expérience.
Il a quand même fait des annonces, la création d'une réserve de 30 000 hommes dans la police, celle de la gendarmerie qui va passer de 30 à 50 000 personnes, un allongement de la durée de formation des policiers, la création de ce qu'il a présenté comme une école de guerre à Montpellier, le changement de 50% du parc automobile de la police d'ici un an, les caméras piétons généralisées pour tous les policiers, là encore d'ici un an. Vous jetez tout de ça? Vous ne gardez rien du tout?
Non, je ne jette pas tout, d'autant qu'un certain nombre de propositions sont dans le livre blanc sur la sécurité que j'ai rédigé et que j'ai rendu public il y a déjà un certain nombre de mois. Mais c'est tard quand même pour s'intéresser à la sécurité dans un mandat de 5 ans. Ça ressemble, vous admettrez avec moi, à une opération électorale.
J'ai
vu beaucoup
campagne.
D'agitation, si vous voulez, dans l'interview, notamment sur la drogue. Alors, il a trouvé quelque chose, là, le trafic de drogue. Mais en réalité...
Il dit que c'est la mère des batailles.
Oui, c'est la mère des batailles, mais si vous voulez, il exprime, au lieu d'exprimer l'efficacité du travail qui est fait par le ministère de l'Intérieur, il exprime un nombre d'opérations. Donc ça revient, si j'essaye de trouver une image, ça revient à soigner le patient sur la base du check-up du médecin. Car s'il connaissait la problématique du trafic de drogue, s'il était allé en parler avec un commissaire quelconque de quartier, il s'apercevrait que toute cette agitation qui est menée par le ministère de l'Intérieur ne sert en l'occurrence strictement à rien.
Pourquoi? Donc les opérations dans les quartiers qui sont gangrenés, ça sert à rien?
À rien.
C'est pas bien pour les habitants?
Non mais ça ne sert à rien. Car il n'y a aucun résultat. Car en criminologie, bon, j'ai fait moi un DEA de criminologie, tout le monde n'est pas obligé d'avoir fait un DEA de criminologie, certes, mais en l'occurrence, on sait très bien qu'un lieu de vente de drogue, ça n'est pas un supermarché en dur, vous voyez, qu'on peut fermer.
Alors comment vous luttez, vous luttez contre le trafic de drogue et contre ces quartiers qui sont gangrénés? Qu'est-ce que vous faites?
D'abord, il faut d'abord reprendre la maîtrise de ces quartiers. Or, la maîtrise de ces quartiers n'est pas récupérée. Hélas, ce sont des zones de non-droit.
Et est-ce que c'est pas en envoyant la police sur place qu'on pourra...
Laissez-moi t'arrêter. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Démanteler les réseaux? Alors ça sert à rien d'envoyer des policiers sur des points de deal. Je vous le dis franchement, c'est pas comme ça qu'on démantèle des réseaux. Pour une raison très simple, c'est qu'un responsable d'un trafic de drogue, jamais, jamais ne met les pieds sur un lieu de vente. Que à chaque fois qu'il y a une opération de lieu de vente qui est montée ou d'organisation d'un réseau qui est monté, systématiquement cette opération est dédoublée. C'est un principe mondial, si je puis me permettre, du trafic de drogue. Cela, tout le monde, en l'occurrence, le sait. Et manifestement,
donc,
il ne le sait pas.
Les policiers sur le terrain pour des opérations coup de poing, ça ne sert à rien. Si vous êtes à l'Élysée, vous ne le ferez pas, ça.
Je ferai beaucoup d'autres choses que avant cela. Voilà. D'abord, encore une fois, s'attaquer au réseau. Et la première chose, c'est de maîtriser les frontières. Car la drogue ne tombe pas du ciel. Elle arrive par des frontières qui aujourd'hui sont grandes ouvertes et ne sont pas, en l'occurrence, maîtrisées. Récupérer, encore une fois, ces quartiers qui vivent sous un autre droit, dans lequel la police n'intervient, mais que de manière ponctuelle, car elle est obligée d'en repartir quasiment aussi vite. Sinon, il existe une émeute et un risque physique pour les policiers. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, les saisies, par exemple, qui sont effectuées, il faut que vous soyez conscient de ça, c'est un quart de ce qui est vendu sur le territoire national. 360 tonnes de cannabis sont vendues chaque année sur le territoire français. Et les saisies, toutes saisies confondues, ça n'est que 25%.
Vous êtes pour ou contre la dépénalisation vous, du cannabis que vous l'évoquez là?
Je suis totalement contre la dépénalisation du cannabis. Mais si vous voulez, quand le président vient nous dire que l'efficacité de la lutte contre le cannabis consiste en 70 000 amendes, chiffre totalement invérifiable. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas un journaliste qui a cherché.
Après, c'est les chiffres. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Non, pas du tout. C'est invérifiable. Justement, il n'y a pas de chiffres. Bon, donc c'est pas grave. Il n'y a pas un journaliste qui a posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ces chiffres. On ne les trouve pas.
Moi, je pense qu'on va pouvoir les trouver sur le site du ministère ou qu'on les trouvera.
Non, je vous le dis que non.
On vérifiera.
Bon, mais c'est pas grave. Mais 70 000 amendes délivrées. Combien payées? Vous voyez, parce que, à un moment donné, encore une fois, est-ce qu'on recherche l'efficacité ou est-ce qu'on recherche juste la communication? Si on recherche la communication, on peut délivrer 70 000 amendes. Si on recherche l'efficacité, il faut que ces amendes soient payées.
Il y en a un qui dit que vous recherchez beaucoup la communication, c'est le ministre de l'Intérieur. Je voudrais que vous entendiez ce qu'il disait de vous ce matin, Gérald Darmanin, qui était l'invité de Benjamin Sportouche sur RTL.
Depuis que je suis petit, je regarde la télévision, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, Agnès Le Pen disent ça, ils disent l'immigration est partout, la délinquance est partout, ça fait 40 ans qu'ils le disent. Donc Madame Le Pen, c'est comme un disque rayé qui répète sans cesse des choses et qui par ailleurs ne vote jamais ce qu'on lui propose. Elle n'a pas voté la loi sur le séparatisme, alors qu'elle condamne tous les jours l'islamisme et que nous faisons des choses extrêmement fortes contre l'islamisme. Elle n'a pas voté la création des 10 000 policiers et des gendarmes. Elle n'a pas voté l'augmentation du budget de la justice, pour être plus ferme. Elle n'a pas voté la loi renseignement. Elle n'a pas voté la loi contre le terrorisme. Madame Le Pen, c'est le coq de Chanteclerc. Elle voit le soleil se lever, elle pense que c'est elle qui le fait lever. Bon.
Qu'est-ce que vous lui répondez à Gérald Darmanin ?
Je lui réponds qu'il n'est pas obligé d'abord d'utiliser ce mépris et cet irrespect. Vous savez, on peut débattre politiquement, on peut s'opposer politiquement, tout en restant respectueux de son adversaire. Hein. Voilà déjà la première chose, une sorte de leçon de savoir-vivre.
Et sur le fond, politiquement, Darmanin, quand il dit que vous n'avez pas voté toutes ces lois.
Mais monsieur, toute une série de lois que nous n'avons pas votées ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Nous ne les avons pas votées car il s'agissait d'atteintes graves aux libertés individuelles et aux grandes libertés publiques. Je suis désolé de le dire, si je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel, pardon.
Mais celle pour sur les 10 000 policiers, c'était pas un problème de conseil constitutionnel.
Enfin, monsieur, vous savez que l'opposition, dans un pays démocratique, ne vote pas le budget ou pas ? La réalité, c'est que c'est même ça qui détermine si vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité. Votez le budget. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre de propositions qui, dans un budget que l'on rejette globalement, qui est considérable, c'est le budget de la nation, peuvent être positives. Mais globalement, nous sommes en désaccord avec les orientations qui sont données dans le budget. Donc, non seulement je suis... Enfin, si vous essayez de faire croire, ou s'ils cherchent à faire croire que je suis en désaccord avec l'augmentation du nombre de policiers, évidemment, personne ne le croira. Pour une raison simple, c'est que, encore une fois... nous ne faisons pas que critiquer ce qui n'est pas fait ou ce qui est mal fait. Nous avons fait un travail considérable. Nous avons fait, encore une fois, un livre blanc sur la sécurité, que nous avons d'ailleurs rendu public avant le livre blanc qui était promis depuis plus d'un an par le ministère de l'Intérieur. Nous avons fait un livre blanc sur la justice. Nous avons fait un livre blanc sur l'immigration. Nous avons fait un livre blanc sur les banlieues.
Il y a des propositions qui sont faites par vous. On parle beaucoup de policiers et de gendarmes, ça revient très souvent. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi et peut-être surtout besoin de plus de profs, de plus d'infirmières, de plus de médecins? C'est moins spectaculaire, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas par là qu'on va pouvoir guérir le pays?
Non, je pense que la sécurité est absolument essentielle.
La réponse doit être avant tout sécuritaire.
Et je veux dire, mais c'est pas un problème de sécuritaire, c'est que ces gens ont la responsabilité d'avoir laissé le pays dans un état de chaos aux mains d'une délinquance et d'une criminalité qui nécessite une réaction importante. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé deux lois de programmation police-justice avec un budget important de 2 milliards sur 5 ans. Pourquoi ? Parce que vos médecins et vos infirmières, pour lesquels j'ai un immense respect, quand vous les rencontrez, ils vous disent quoi ? Ils sont agressés physiquement tous les jours, menacés tous les jours, et ils sont par conséquent... eux aussi les premières victimes de l'insécurité. Les professeurs, et j'ai pas besoin de vous rappeler les drames épouvantables qui se sont déroulés. Tous les jours, des professeurs sont menacés, agressés. Ils sont aussi victimes de l'insécurité. Ils sont aussi, au-delà de leur profession, des citoyens qui prennent des transports en commun, qui ont la peur au ventre quand leurs enfants ont 10 minutes de retard, hein, parce que on compte, les faits divers terribles où des jeunes gens, des jeunes filles se font violer, assassiner dans notre pays. Donc oui, il y a des mesures à prendre en amont d'abord. La première des mesures à prendre en amont, c'est d'abord d'expulser et d'interdire définitivement du territoire les gens que nous avons accueillis, qui sont étrangers et qui commettent des délits et des crimes chez nous. Ça, c'est la première des choses. 25% des détenus sont étrangers. Si déjà ceux-là étaient chez eux...
Donc pour vous, ils purgent leur peine et ensuite vous les renvoyez?
Bien sûr, car dans ce nombre-là, il y a évidemment une masse importante de récidivistes, c'est-à-dire de gens qui ont déjà commis un délit ou un crime et qui sont restés sur le territoire national. Je ne vais pas vous donner la longue liste...
Non, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder.
...des gens en situation irrégulière qui ont commis des actes très graves. Mais quand Emmanuel Macron se refuse à voir cette réalité et nous explique dans son interview du Figaro que ce sont les réseaux sociaux qui sont à l'origine de l'ensauvagement... Merci au passage pour m'avoir accordé la maternité, pardon, on va pas dire la paternité, sinon on va se retaper sur les doigts par Mme Schiappa, mais la maternité de ce terme. Non, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont responsables de ça.
Marine Le Pen, je voudrais qu'on parle aussi d'une décision de justice qui a beaucoup été commentée depuis ce week-end. Il y a des policiers qui se sont rassemblés aujourd'hui devant les tribunaux de tout le pays à la mi-journée pour protester contre le verdict du procès en appel des policiers brûlés à Viry-Châtillon. L'avocate que vous êtes est-elle comme tous les politiques qui disent « on ne commande pas une décision de justice » avant de commenter dans la phrase qui suit? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a dans toutes ces réactions une forme de populisme judiciaire?
Non, pas du tout. Encore une fois, moi je suis très indignée, très heurtée par le résultat de cette décision, mais elle est rendue au nom du peuple français. En revanche, ce que je me permets absolument de critiquer de manière très ferme, ce sont les propos de l'avocat général. L'avocat général a commencé son réquisitoire en disant que les jeunes qui étaient en face de lui étaient des richesses pour la société. Des jeunes qui ont lancé des pierres à une jeune policière qui sortait en feu de sa voiture et qui criait « Aidez-moi, j'ai des enfants ». Et l'avocat général, qui est censé être l'avocat de la société, qui est directement sous les ordres du ministre de la Justice, monsieur Dupond-Moretti, a commencé son réquisitoire en disant à ces jeunes-là, vous êtes une richesse pour la société, comment voulez-vous que l'on puisse admettre cela?
Donc vous remettez en cause ce verdict, cette décision de justice,
non,
ou pas?
Non, mais pas du tout. Je remets en cause les instructions qui sont données par monsieur Dupond-Moretti, qui dit lui-même qu'il est le ministre des détenus et des délinquants. Voilà ce que je remets en cause. Les instructions qu'il donne à son parquet, qui est censé défendre la société, et qui, en l'occurrence, avec des propos tels que ceux-là, indigne la société, scandalise la société.
Qui est à l'origine du verdict
de Viry
Châtillon.
C'est lui, monsieur, qui a dit « je suis le ministre des détenus » et c'est lui qui l'a dit. Et bien, et d'ailleurs, Jean-Paul Garot, qui sera mon futur ministre de la Justice, a dit « moi, je serai le ministre des victimes ».
Vous rétablirez la peine de mort ou pas ?
Non, je ne rétablirai pas la peine de mort. Je l'ai dit, je pense que ce sont des sujets qui peuvent faire l'objet, si la société le souhaite, d'un référendum d'initiative populaire. Si la société le souhaite, elle doit avoir la possibilité, grâce au référendum d'initiative populaire, de contester toute loi avec 500 000 signatures qui a été votée, ou demander le vote de toute loi. Et la société se déterminera. En ce qui me concerne, je vous dis franchement que l'ensauvagement de la société française, la brutalité et même la barbarie poussent les gens à solliciter la remise en œuvre de la peine de mort. Je pense que
à titre personnel, est-ce que vous y êtes favorable? On a bien compris que ça doit venir d'un référendum, mais à titre personnel.
Si la perpétuité réelle était appliquée, et c'est ce que je souhaite, alors probablement il y aurait moins de gens qui seraient pour la peine de mort. Mais la perpétuité...
Mais à titre personnel, est-ce que vous y êtes favorable?
Je viens
Marine
de vous
Le Pen.
Répondre.
Donc vous, c'est la perpétuité réelle?
Réelle, réelle, monsieur Soto. Mmh. C'est-à-dire la perpétuité, on ne sort pas. Jamais.
Mmh. Autre affaire qui a provoqué beaucoup d'émotions, c'est suite au meurtre antisémite de Sarah Halimi. On a appris que l'homme qui l'avait tué ne serait pas jugé car considéré comme irresponsable pénalement. Emmanuel Macron souhaite faire évoluer la loi. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Oui. Oui, j'y suis favorable, même si je pense qu'il y a eu, en l'occurrence, une erreur de droit. Car le fait de consommer des substances, alcool, drogue, de toute nature, ne peut pas être une excuse d'un geste criminel. En aucune manière. Ça ne peut pas être une circonstance atténuante.
C'est le plus souvent une circonstance aggravante.
Et oui, et ça me paraît être tout à fait naturel que ce soit une circonstance aggravante. Donc si à chaque fois, si vous voulez, que quelqu'un commet un crime sous l'empire d'un produit stupéfiant, il peut plaider la folie, alors je crois qu'on marche sur la tête.
Il y a eu des expertises psychiatriques contradictoires. Mais ce principe qui dit qu'en France, on ne juge pas les fous, on les soigne, il faut y revenir ou pas?
Non, mais c'est pas sur ce principe-là qu'il faut, encore une fois, intervenir. C'est un principe qui est acquis. Il est évident que les gens qui sont fous ne peuvent pas être jugés pénalement. Mais en revanche, la bouffée délirante liée à la consommation de stupéfiants comme excuse pour ne pas juger un homme qui commet un acte atroce d'une barbarie antisémite sans nom, qui a torturé cette vieille dame et l'a jetée par la fenêtre, ça c'est non pour moi. Mmh.
Donc il faut faire changer la loi. On en vient aux questions sanitaires, on va aller un peu plus vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Depuis 5 jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie, a dit Olivier Véran, qui reste toutefois prudent. Est-ce que c'est le signe que la méthode du gouvernement est la bonne finalement ?
Écoutez, je ne sais pas où il voit une décroissance, mais je suis souvent en désaccord avec M. Véran dans ses analyses. Moi, je vois que nous sommes sur un plateau très haut. très haut, et que toutes les mesures qui ont été prises dans les dernières semaines, semble-t-il, n'arrivent pas à faire baisser ce plateau.
Donc le déconfinement au 15 mai, vous n'y croyez pas ?
Écoutez, je suis un petit peu étonnée, si vous voulez, d'entendre le président de la République qui nous avait expliqué qu'au-delà de 5000 cas par jour, ce serait une catastrophe et qu'il faudrait presque reconfiner, et aujourd'hui qui nous explique qu'à 35 000 cas par jour, tout va bien, dans 15 jours, on va pouvoir réouvrir. Je suis étonnée, je ne comprends pas cette communication, je ne comprends pas les choix qui sont faits par le gouvernement, je les trouve irresponsable et très grave quand il s'agit de laisser les frontières ouvertes depuis des semaines avec le Brésil, par exemple.
Là, il y a des mesures de quarantaine qui vont être mises en place à partir de samedi.
C'est trop tard, Monsieur Soto. Vous savez, MacArthur disait « Toutes les guerres perdues s'expliquent par un mot, trop tard. Avoir su trop tard, avoir agi trop tard, avoir compris trop tard. »
Mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ouvre les écoles lundi, par exemple ?
Nous avons un gouvernement irresponsable qui fait n'importe quoi, qui ne prend pas les bonnes décisions, et à chaque fois on vous dit « Bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eh bien maintenant, on met en place une organisation généralisée d'analyse des eaux usées, de séquençage, de démultiplication du séquençage pour savoir quels sont les variants qui circulent sur le territoire. Traitement, c'est-à-dire de recherche d'un traitement pour soigner le Covid. Car la vaccination risque d'entraîner des déceptions.
Oui, mais en attendant, est-ce qu'on ouvre les écoles lundi ?
Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas réouvrir les écoles lundi. Je l'ai toujours dit. Mais vous savez, moi, je me base... Enfin, je ne suis pas épidémiologiste. J'ai pas l'orgueil d'Emmanuel Macron, mais... Si vous voulez, j'ai lu une étude du Lancet qui, après la première vague, a fait une étude sur 175 pays, je crois, en disant voilà, les trois éléments les plus performants pour faire baisser la circulation, c'est arrêter les grands rassemblements, c'est le télétravail et c'est la fermeture des écoles. Je l'avais dit avant qu'ils les referment. On nous avait dit non. Bon. Mais tout ça, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a l'impression de ne pas être dirigé, en fait. Qu'ils ne savent pas véritablement ce qu'ils veulent faire et qu'ils jouent au dé les mesures qu'ils vont prendre tous les matins. C'est assez inquiétant, sur le fond.
Question de Jean-Michel de Roubaix qui vous demande, Madame Le Pen, est-ce que vous feriez vacciner à l'AstraZeneca ?
Je pense que oui.
Oui ?
Oui, je pense que oui, parce que...
Jordan Bardella dit non, lui. Hein.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est normal. Oui. J'ai envie de vous dire. C'est normal parce que Jordan Bardella, il a 25 ans. Donc Jordan Bardella, à titre personnel, il considère que, somme toute, le risque d'avoir un effet secondaire est plus important quand on a 25 ans avec un vaccin que le risque d'avoir une forme grave du Covid, c'est sa liberté. Et moi, je suis attachée à la liberté de chacun de décider pour sa propre santé. Je n'ai pas l'âge de Jordan et je le regrette, croyez-moi.
En tout cas, vous, l'AstraZeneca, vous iriez. Si on vous le propose, vous irez.
Mais oui, moi j'irais, oui.
Cette crise, Marine Le Pen, elle a un coût, évidemment. Hein. On estime que la dette Covid, comme on l'appelle, est déjà à 215 milliards. Il y a ceux qui disent qu'il est inenvisageable de ne pas rembourser cette dette, comme Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Et puis il y a ceux qui disent qu'on ne la remboursera jamais, comme Arnaud Montebourg ou comme Jean-Luc Mélenchon. Dans quel camp vous vous situez, vous ?
Moi, je pense qu'il faut la rembourser.
Comment ?
Je vais vous répondre par quelque chose de très simple. On dit souvent qui paie ses dettes s'enrichit, et moi je vous répondrai qui s'enrichit paie ses dettes. Je note d'ailleurs que le gouvernement a totalement changé d'avis sur cette idée, puisqu'il a, pendant des mois, après l'élection d'Emmanuel Macron, il nous a expliqué que les dépenses publiques ne pouvaient pas générer de la croissance. C'est la vision ultralibérale. Aujourd'hui, ils nous expliquent que c'est grâce aux dépenses publiques qui vont générer de la croissance. Bon, moi, je suis contente de voir qu'ils sont donc d'accord avec moi, pour finir. Il suffit juste d'attendre. Hein. Au bout d'un moment, ils arrivent toujours à être d'accord avec moi. Donc, je pense qu'il faut créer de la croissance.
Oui.
Et pour créer de la croissance, il faut d'abord commencer par faire les économies.
Donc, vous êtes assez d'accord avec Bruno Le Maire, finalement ?
Non, je ne suis pas d'accord avec Bruno Le Maire sur la méthode qu'il utilise. La preuve, c'est que lui, il n'arrive pas à générer de la croissance, en réalité.
Voilà, on est en plein dans la crise, c'est un peu difficile.
Oui, il faudrait une émission.
Venez-en, oui.
Je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, sur le choix qui est fait des investissements qui sont effectués, des dépenses qui sont effectuées, je suis en désaccord. Sur les dépenses, je suis en désaccord. Ce gouvernement ne lutte pas contre la fraude, elle est massive. La fraude sur les prestations, mais aussi la fraude sur les cotisations, hein, les deux. On ne traite pas ce sujet, qui est un sujet important. On dépense des sommes qui sont considérables sur l'immigration. Pour l'immigration, je pense évidemment aux mineurs isolés, 2 milliards, à l'AME, 1 milliard et tout le reste. Et on continue à ouvrir grand les frontières et à accueillir une immigration dont nous savons
que nous ne pourrons pas. Si vous êtes élue l'année prochaine, Marine Le Pen, est-ce que vous aurez, comme aujourd'hui Bruno Le Maire, l'objectif de revenir aux 3% de déficit en 2027 ? Est-ce qu'il faut revenir à ce dogme des 3% ou est-ce qu'il faut dire maintenant on passe à autre chose ?
Non, mais ce dogme, c'est fini. Enfin, même même l'Union européenne n'y croit plus à ce dogme. Moi, je ne suis pas dogmatique, je suis pragmatique. Voilà. Et encore une fois, je vous dis que pour retrouver, pour se désendetter, il faut retrouver les voies, encore une fois, de la croissance. Ça nécessite, je l'ai expliqué, la création d'un fonds souverain doté de 400 milliards. Pourquoi ? Parce que la France est un des pays qui mobilise le moins l'épargne des Français. Cette épargne, elle est considérable. Je pense qu'il faut qu'on l'investisse en la rémunérant à 2% dans un fonds souverain qui soit susceptible d'être investi dans des entreprises d'avenir, des entreprises technologiques, la santé, le logement, les territoires, pour susciter du rendement. Et c'est ainsi, entre autres, qu'avec le patriotisme économique, parce que si vous ne faites pas de patriotisme économique, tout ce que vous, toutes les impulsions, si vous voulez, budgétaires que vous effectuez, soutiennent les économies des pays voisins, ce qui pose quand même un problème. Voilà.
On aura l'occasion d'y revenir sur ces questions-là.
Oui, c'est un modèle économique global porté par le gouvernement avec lequel je suis en désaccord aujourd'hui et auquel je présente une alternative.
Question, réponse rapide, hein, vraiment, s'il vous plaît, question d'auditeur. Samira de Caen, que pensez-vous des quartiers sans relous de Marlène Schiappa ? Elle veut créer un baromètre du harcèlement de rue et des espaces où les femmes pourront circuler sans être importunées.
Non, mais on ne leur demande pas de faire des baromètres, permettez-moi. On leur demande de régler les problèmes qui sont celui des Français. Moi, je suis assez heurté, j'avoue, par ce vocabulaire que je ne trouve pas à la hauteur de nos dirigeants. Cette espèce de faux vocabulaire Jones, je trouve ça critiquable. Et puis même sur le fond, c'est critiquable, parce qu'après tout, le harcèlement le sexuel, les agressions que subissent les femmes, les jeunes femmes dans la rue, on ne peut pas dire que c'est uniquement le fait de relou. C'est le fait de délinquant.
Donc le terme n'est pas le bon.
Non, mais le terme n'est pas le bon. Et puis encore une fois, un baromètre. Dans ce gouvernement, on crée des baromètres, des numéros verts, on lance des grands débats. Il y en a trois là qui ont été lancés en deux jours. Hein. Un grand débat sur la laïcité, un grand débat sur le cannabis. Mais, est-ce qu'il y a une cohérence ? Est-ce qu'il y a un peu de sérieux ? Est-ce qu'il y a une route dans l'esprit de notre président, ou est-ce que en réalité il n'y a qu'un mur, c'est celui de la future élection présidentielle au pied duquel j'espère qu'il va s'arrêter.
On va en parler dans un instant. Encore une question d'Edgar de Paris. Faut-il abolir le concordat allusion à ce qui se passe à Strasbourg avec la mosquée de Strasbourg? On sait qu'en Alsace et en Moselle, le public peut financer les églises.
Non mais absolument pas. Enfin, et je ne vois pas le rapport avec la problématique de Miligoris.
Pour empêcher la subvention, comme il en est des questions.
Non, mais personne ne force, je suis désolé, la ville de Strasbourg ou quelconque collectivité à financer Miligoris, qui est une association islamiste. Personne ne les force. Ils ont le choix de le faire. D'ailleurs, M. Castaner, ministre de l'Intérieur, l'a fait aussi en 2019. Il a adressé, je crois, 22 000 euros de subvention à Miligoris, association islamiste, entre les mains de M. Erdogan, pour, je vous le donne en mille, pour prévenir la délinquance. Voilà. Personne n'est obligé, aucune collectivité n'est obligée de le faire. En revanche, la loi de M. Darmanin ne permet pas de l'interdire. La proposition de loi que j'ai déposée de lutte contre l'islamisme le permet.
Vendredi, Marine Le Pen, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, disait rêver d'un second tour de l'élection présidentielle sans vous. Au fond de vous, est-ce que vous êtes convaincu que vous y serez au second tour l'an prochain ?
Bon, il peut toujours rêver, M. Attal.
Oui, donc vous êtes convaincu ?
Non, je ne suis pas convaincue, c'est les Français qui le diront, et moi je respecte tout à fait leur vote. Mais je pense qu'il y a une cohérence à ce que nous nous retrouvions, Emmanuel Macron et moi-même au second tour, pour une raison simple, c'est que nous portons deux visions radicalement différentes de la société française, et de l'avenir que nous offrons aux Français. Lui, la continuation d'une politique qui a été catastrophique, qui a apporté le chaos, qui a apporté le désordre, qui a apporté la division, qui a apporté, pour le coup, le séparatisme, et ma vision nationale, qui est basé sur trois axes, la protection, la projection et la transmission.
Dans le point de cette semaine, votre père dit qu'il n'est pas optimiste quant à vos chances de victoire. Demain, ce sera le 21 avril, ça fera 19 ans qu'il s'était qualifié pour le second tour. Vous pensez que le front républicain, le front anti-FN, le front anti-RN tient toujours aujourd'hui ?
Je ne le crois pas. Je pense que beaucoup d'ailleurs d'éditorialistes constatent que cet argument, qui était par ailleurs extrêmement faible, extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on ne combat pas le Rassemblement national idée contre idée, mais uniquement en se fondant sur un front qui est en fait anti-républicain, et surtout anti-démocratique. Donc je pense que ce front-là a vécu, et je m'en réjouis, et je suis convaincu que les Français iront en 2022 voter pour leurs idées, et pas contre tel ou tel.
Et si vous n'êtes pas élu, vous tournerez la page de la politique ou pas ?
Mais pourquoi ferais-je cela ?
après trois candidatures, si c'est...
Mais je continuerai pour mon pays à me battre, à défendre les idées que je considère comme bonnes pour notre pays, pour la sécurité, la prospérité, pour défendre l'identité des Français. Et je le ferai jusqu'à ce que... jusqu'à mon dernier souffle, et c'est normal. Enfin, je veux dire, comme tout patriote le fait et le fera.
On a parlé d'un anniversaire le 21 avril, il y en a un autre aujourd'hui, c'est celui d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui fête ses 60 ans. Vous lui souhaitez quoi ?
Eh bien, je lui souhaite de retourner au barreau. Car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il obtenait, semble-t-il, avec sa hargne et plus de victoires qu'il n'en obtient à la tête de son ministère.
Eh bien, il pourra vous répondre demain, puisqu'il sera l'invité de Benjamin Sportouche dans la matinale.
Mais il ne fait que parler de moi, de toute façon. Donc, il
mais vous
ne
voulez toujours pas débattre avec lui.
Vous ne
voulez toujours pas débattre avec lui, vous.
Mais non, mais M. Garot va débattre
oui,
avec
c'est
lui.
C'est ce que vous dites à
ministre,
chaque fois.
Ministre de la Justice contre ministre de la Justice.
J'ai une toute dernière question, parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs là-dessus, sur un tweet de Robert Ménard. Vous savez, suite à la petite polémique entre Mohamed et Pierre, est-ce que le prénom Pierre, ça existe ailleurs que dans les livres, dans le quartier manque de mixité, a dit un petit garçon à sa maman qui l'a raconté à Emmanuel Macron. Hier. Le tweet de Robert Ménard, c'est « Posons la seule vraie question, pourquoi tant de Pierre ne veulent pas vivre avec autant de Mohamed ?» Est-ce que vous pourriez le signer, ce tweet ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Ménard ?
Non, mais enfin, Robert Ménard et Robert Ménard, ça ne vous a pas échappé que nous avons parfois d'ailleurs des idées différentes et souvent des idées, des manières différentes de le dire et de l'exprimer. Il n'en demeure pas moins que Robert Ménard et du côté, je crois, de ceux qui défendent la nation. Et ça me suffit, moi, dans le cadre de cette grande union nationale que je veux mener, cette union nationale,
elle inclut des gens qui vont venir... Ce tweet ne vous choque pas, vous ? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'auditeurs qui...
Mais non, mais moi, encore une fois, que les choses soient claires. L'origine des gens ne m'intéresse pas. La couleur de leur peau ne m'intéresse pas. La religion ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est... Ils sont des citoyens français, ils ont droit, encore une fois, à la sécurité, à la prospérité, ils ont le droit de défendre leur histoire,
mais
leur
culture.
Mais
donc écrire pourquoi tant de Pierre ne veulent pas vivre avec autant de Mohamed, c'est pas très malin ce que vous dites ?
Non, mais c'est pas le sujet. C'est que moi je suis une présidente de mouvement, une candidate à la présidentielle, et je viens vous dire que le problème de l'immigration est un problème majeur. Voilà comment je vous le dis, c'est un problème essentiel, principal, et je vais m'y atteler, et je vais le régler.
Et ça ne met pas une image, ça ne vous remet pas sur le Rassemblement national une image de racisme dont vous essayez de...
Monsieur Soto, ça ne risque pas, car Monsieur Ménard n'est pas au Rassemblement national, ça ne vous a pas échappé.
Mais il est assez proche de vous, ça ne m'a pas échappé non plus.
Non, mais ça ne vous a pas échappé qu'il n'est pas au Rassemblement national. C'est un esprit libre, c'est un maire, il s'exprime comme il le souhaite, mais je ne me sens pas comptable de ses propos.
Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce soir dans RTL Soir. Merci à vous. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Bah, il est arrivé en retard, Philippe Cavrivière, pour l'œil de Philippe. Philippe, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ?
Je trie mes photos, j'ai fait quelques selfies avec Marine. C'est pour faire râler mes copains de Fréjus. Ils sont fans. Bah, y en a qui ont des posters de Goldman ou de Federer dans leur chambre, d'autres de Marine Le Pen. Un peu de tolérance, Thomas. Ah, j'avais déjà un selfie avec Jordan Bardella, maintenant j'ai Marine. Il manque plus que Marion et le grand-père, Jean-Marie, puis j'ai toute la famille.
Ouais, bon, on vient donc de recevoir Marine Le Pen qui, selon un récent sondage, est la candidate préférée des jeunes.
Vous avez vu ça ? Jeunes aiment Soprano, Omar Sy, Paul Pogba et Marine Le Pen. Cherchez l'erreur, allez comprendre. Les ravages du cannabis. Elle l'a dit, Marine. Hein. 360 tonnes de cannabis, il fume. Faut pas s'étonner. À ce rythme-là, Marine Le Pen fera bientôt la couve du journal de Mickey. Bon, la bonne nouvelle, comme les jeunes vont plus à l'école, si elle est nulle au prochain débat contre Macron, ben, ils ne le verront pas. Ils sont allés à l'école.
Bon, alors, vous, Philippe, en grand féministe que vous êtes, évidemment, vous êtes favorable à l'élection d'une femme à la présidentielle de 2022.
Il faut élire une femme en 2022. Car dans tous les cas, on sera gagnant. Soit elle est meilleure que ses 25 prédécesseurs masculins, on en a 25 depuis Napoléon, donc on est gagnant. Oui. Soit elle est nulle pareil, et nous, avec Pierre Ménès, on pourra dire « On avait dit qu'avec une femme aux commandes, ce serait le bordel !» Gagnant, gagnant. Il faudra nous dire « Les quartiers sont relous avec Pierre Ménès, qu'on n'a plus le droit d'y aller. »
Oui, c'est sûr, vous n'allez pas le retrouver facilement. Sinon, alors je sais que vous avez suivi attentivement l'interview, je vous ai vu prendre des notes, vous avez passé quoi sur le fond de cette interview ?
Vous réclamez mon célèbre débrief politique à chaud.
Oui,
si la technique peut me mettre un générique correspondant à mes nouvelles fonctions, jingle.
Le débrief politique de notre correspondant à Washington en poste à Paris, Philippe Cavrivière.
Ah ouais. En toute simplicité.
Ah, vous avez pris du galon, là.
Alors, ouais. Les plus, les moins, le petit moins, le petit bémol, aucune question sur les chats, oui. Un thème sur lequel Marine Le Pen est pourtant très à l'aise, qui aurait pu donner une autre couleur à cette interview. Il y avait des questions importantes. Êtes-vous plus croquettes céréales ou croquettes bio?
Oui.
Dommage, vous êtes passé à côté. Le petit plus, là où vous avez été fort, Thomas, ben j'en ai pas. Peut-être la chemise, la liquette bleu ciel, à la rigueur. Ah si, un point positif, vous avez su créer la surprise. Le décalage en causant insécurité avec notre invité, on s'y attendait pas. Ben elle a été super, Marine. Bon, c'est sa langue principale, c'est sa langue maternelle. Enfin, paternelle du tout, d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors, et elle a été super parce qu'elle a déjà son ministre de la Justice, oui. Le chanteur Garou. Alors, je ne sais pas.
Non. Jean-Paul Garou.
Garou, ah, d'accord, Garou. Ok, ça fait sens. Vous avez évoqué le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Le jugement fait polémique car 8 des accusés ont été acquittés. C'est pas si surprenant car à l'époque, il était autorisé de faire des barbecues à plus de 6 personnes. Perso, je suis plus embrasser un flic de Renault que embraser un flic dans une Renault. Voilà, bien rattrapé, on a tous eu peur.
La nuance est importante.
Mais au risque de vous surprendre, je suis solidaire de Marine Le Pen car elle est comme la grand-mère de Mia. Elle aussi, on lui a volé ce qu'elle avait de plus cher. Ses thèmes de campagne. Des idées ont été enlevées. Ceci est une alerte enlèvement. Des thèmes de campagne sur la sécurité et la police appartenant au Rassemblement national sont recherchés. N'agissez pas seul. Ah, c'est bon, on me dit dans l'oreillette qu'on les a retrouvés hier à Montpellier. Emmanuel Macron se baladait avec les thèmes de campagne de Marine Le Pen dans les bras. Bon, Marine, j'espère que t'es rassurée. Point où elle a été très fort, Marine. Hein. Économie, elle est très pointue parce que vous lui avez dit comment on rembourse la dette. Pan, avec des sous dans ta gueule. Comme quoi, on sent qu'elle a bossé, elle sera prête pour l'année prochaine. Vous avez parlé de la polémique des prénoms. Il n'y a plus de Pierre dans les quartiers. Alors, il y a plein de prénoms qui s'en vont. Sylvain, les Jean-Claude, il n'y en a plus. Les Sylvain, les Paulette, il n'y en a plus.
C'est vrai qu'il y a moins de Jean-Claude. Hein.
Jean-Jacques, il n'y en a plus. Il n'y en a plus qu'un.
Il y a
les légumes oubliés, les prénoms oubliés. Bon, heureusement, il y a des bobos pour s'en souvenir. Au passage, j'ai trouvé très juste les mots de la dame hier au président qui parlait de la diversité dans les quartiers. Voilà, oui. Ben, on est loin du communautarisme.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
Bon, non, ça, c'est Madame Musquin, mais c'est Naïma Amadou qui a de très jolis mots. Si on fait la liste des Pierre Seb, on a des Pierre Jean, son variant du Pierre. Oui. Il y a Pierre Blachelet, Pierre Tcherna, Pierre Perret. C'est pas tout jeune non plus. Et nos deux préférés, Pierre Richard, Pierre Desproges. Voilà. Il y a deux prénoms que je déconseille vraiment aux filles. Mia et Mila. C'est vraiment des prénoms en merde. N'y allez pas. Voilà. Sinon, pour les prénoms, il y a des prénoms. C'est bien la diversité dans les prénoms, voilà, les prénoms étrangers, régionaux. Ouais. Et depuis 93, on peut ouvrir. Désormais, il y a des myrtilles, des framboises, des vanilles. On a l'impression de faire un tour chez le glacier. Vous me mettrez deux boules. Voilà. Il y a un parfum de vacances. C'est ça, vrai. C'est plutôt bien. Ouais. Et comme c'est bien de se détendre, vous avez parlé Covid et pandémie. Ouais. Avec les fermetures de frontières, le
vous
Covid.
Vous êtes en train de flinguer Alain Duhamel. Là, il y a un level de.
Vous avez remarqué aussi. Avec la fermeture des frontières, le Covid a fait un an, ce dont le Front National rêve depuis 40 ans. Israël vit quasi normalement, le Maroc est très en avance sur la France en termes de vaccination. Bref, les temps sont durs pour les racistes et les antisémites. On vous kisse les poteaux. Et demain, 21 avril, on souhaite un joyeux anniversaire pour les... Et oui, pas à Lionel Jospin, mais à Jean-Marie Le Pen qui était au second tour, n'est-ce pas, à Pupersley, seulement 92 ans. Ma fille m'a fait honte. Alors, j'espère qu'il n'a pas écouté la phrase choc de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a dit « Pas de couleur, pas de religion. » Je pense que c'est la phrase choc. Je pense que Jean-Marie Le Pen a fait un infarctus sur cette phrase. Voilà. Alors, si jamais il tient jusqu'à 99 ans, comme le prince Philippe, il y a encore 7 ans à tirer. Courage, Marine. On est à l'heure ou pas?
Non. Philippe Cavrivière.
On s'en fout.
T'es fou. Allez, on vous retrouvera jeudi pour l'œil de Philippe Cavrivière. Dans un instant, il sera 19h. On fera un point météo, évidemment. Et ce sera le journal. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
19h02.
RTL Soir.
Thomas Soto.
Et Sébastien Rouxel pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, un vaccin unidose bientôt disponible en France, celui de Johnson & Johnson.
L'agence européenne du médicament vient de donner son feu vert, de quoi donner un coup d'accélérateur à la campagne vaccinale. Les policiers devant les tribunaux pour manifester leur colère. Des centaines de fonctionnaires se sont rassemblés dans plusieurs villes de France pour réclamer une justice plus ferme contre ceux qui les agressent. On reviendra aussi sur les conséquences de la mort du président tchadien, un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Salut ce soir le ministère français des armées. Et puis du football et les débuts des quarts de finale de la Coupe de France. Les amateurs de Rumilly-Vallière affrontent Toulouse depuis une quinzaine de minutes et il y a pour le moment toujours 0-0.
La météo pour demain, on sort le parapluie, c'est ça Peggy?
Oui, dans le sud-est en tout cas, parce que c'est vrai que le temps sera gris toute la journée avec des averses, un peu de neige en montagne. La matinée sera ensoleillée au nord mais plus variable l'après-midi entre le nord-est, le Limousin et le Midi-Pyrénées. Et puis dans l'ouest, on gardera un temps sec avec de belles éclaircies, tout ça sous de la douceur de 13 à 20 degrés.
Et tout ça, on le développera à la fin du journal. Merci Peggy.
RTL Soir.
Quand pourrons-nous enfin retirer nos masques? La perspective est assez lointaine pour la plupart des Français. Il faut dire que la situation épidémique reste fragile. Le nombre de contaminations reste élevé malgré une légère baisse ces derniers jours. Pourtant, dans certains départements, les indicateurs sont au vert. Exemple, à Tarascon-sur-Ariège, en Occitanie, où le taux d'incidence est de moins d'un cas pour 1000. Résultat, depuis vendredi, le masque n'est plus obligatoire et les habitants en profitent, Patrick Hisson.
Eh bien, je dirais plutôt, ils vont en profiter, car certains avaient encore du mal à y croire aujourd'hui.
Je n'en étais pas sûre, parce que je l'ai entendu dire hier. Oui, oui, mais je vais vous dire, on s'est tellement habitué au masque maintenant que systématiquement, c'est vrai qu'on le met quand on sort.
Je pense que c'est bien, ça donne un peu plus de liberté. Mais bon, parce que je trouve ça une contrainte.
C'est une bonne nouvelle, j'espère qu'il va y en avoir de meilleures même, d'ici quelques semaines, j'espère.
D'autres ont aussi choisi de ne pas goûter à cet assouplissement.
On rencontre, nous, enfin, en tant que facteurs, énormément de monde. Même dans les campagnes, ils pensent qu'ici, on risque rien. Moi, je préfère garder le masque, oui.
Éviter tout relâchement, c'est d'ailleurs le message du maire de Tarascon-sur-Ariège, Alain Sutra.
C'est un premier pas, je dirais, certes modeste, mais premier pas vers la vie d'avant. Mais c'est un premier pas que je prends avec quand même beaucoup de recul. Et je continue à demander à mes concitoyens de faire preuve de prudence. Mais c'est vrai, on ne peut pas nier que c'est une liberté retrouvée que de se voir vraiment.
Le plaisir de découvrir de nouveau des visages sans masque dans la rue, c'est donc possible à Tarascon-sur-Ariège, sauf pour faire son marché et aux abords des écoles à partir de la semaine prochaine.
Un reportage signé Patrick Hisson en Ariège. Pour RTL, étant donné les situations sanitaires bien différentes selon les départements, faut-il s'attendre à une levée des contraintes territoire par territoire? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, semble en tout cas y être favorable.
En attendant, l'exécutif maintient son calendrier. Les crèches, les écoles primaires et maternelles devraient bien rouvrir lundi prochain comme prévu. Attention, dit l'épidémiologiste Antoine Flao, il ne faut surtout pas se précipiter pour lever les restrictions, bien au contraire.
Quand on est en convalescence, qu'on traite bien un malade, il ne faut pas arrêter le traitement. Et je pense qu'aujourd'hui, le traitement n'est pas encore arrivé à son terme. Ce serait beaucoup trop prématuré aujourd'hui de rouvrir le pays. Je pense que 3 semaines supplémentaires seraient sans doute le régime qui permettrait d'arriver à cette décrue épidémique, qui permettrait ensuite aux autorités de santé de reprendre totalement la main sur toutes les chaînes de transmission.
Antoine Flao, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève. Il était l'invité d'Agnès Bonfillon dans RTL Midi. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, invitée de RTL Soir, s'est dit opposée à la réouverture des écoles lundi prochain.
Du côté de la vaccination, la liste des professions prioritaires s'est élargie à une vingtaine de métiers. Les conducteurs de bus, les éboueurs, les employés de pompes funèbres en font désormais partie, entre autres. Ils auront donc accès dès ce week-end, s'ils ont plus de 55 ans, c'est la condition, à des créneaux dédiés.
Et pour accélérer la campagne vaccinale, la France va bientôt pouvoir compter sur un nouveau vaccin, unidose cette fois-ci, celui de Johnson & Johnson. L'autorité européenne du médicament a donné cet après-midi son feu vert, et ce, malgré quelques rares cas de caillots sanguins. L'agence estime que la balance bénéfice-risque reste positive. Alors Virginie Garin, quand va-t-on commencer à l'utiliser en France, ce vaccin ?
Alors d'abord, la Haute Autorité de Santé va donner son avis demain ou jeudi au plus tard. Elle dira à quelle population va s'adresser ce vaccin. Est-ce qu'elle va le réserver aux plus de 55 ans ? Alors c'était déjà le cas puisque le vaccin de Johnson & Johnson devait avoir la même cible que l'AstraZeneca en ville, chez les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. 200 000 doses ont déjà été livrées en France. Elles attendent chez les grossistes qui devraient pouvoir les acheminer dans les pharmacies samedi. et les premières vaccinations pourraient commencer, selon le ministère de la Santé, lundi prochain. Le ministère qui l'a rappelé ce matin, ce vaccin est indispensable dans la stratégie de la France. Plus d'1,5 million de doses sont attendues avant fin mai, indispensable pour respecter l'objectif de 20 millions de premières injections le 15 mai et de 30 millions le 15 juin.
Les précisions de Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Et ce soir, près de 13 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin.
On marque une toute petite pause. Dans un instant, on va s'intéresser à la colère des policiers. Ils veulent une justice plus ferme contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h10, la suite du journal avec vous, Sébastien Rouxel. Exprimer leur colère, dire leur malaise, des centaines de policiers se sont donc retrouvés aujourd'hui devant plusieurs tribunaux dans le pays.
Trois jours après, le verdict en appel du procès de Viry-Châtillon ne passe pas. Plus de relax et des peines moins lourdes qu'en première instance. L'illustration, selon eux, d'une justice laxiste envers ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Nicolas Burnand, vous avez assisté au rassemblement parisien devant le palais de justice où les policiers vous ont fait part des violences et menaces quotidiennes dont ils sont victimes.
En 22 ans de service, Cédric, policier sur la voie publique, se dit chanceux, lui, de ne jamais avoir été blessé. Avec son équipage, ce brigadier sillonne les quartiers difficiles de la banlieue parisienne.
Lorsqu'on passe, on ne sait pas si on va essuyer un caillou ou un fer à repasser sur le pare-brise, si notre véhicule va être pris en guet-apens entre deux autres bagnoles. C'est notre travail au quotidien.
Dans sa carrière, ce fonctionnaire assure avoir déposé plainte à une dizaine de reprises pour outrage ou violence.
On a eu une personne qui était alcoolisée, sous stupéfiant, un multirécidiviste, qui a même déjà connu de la prison, etc. Bah, il a eu que deux sursis. Des petits jeunes, même si vous allez faire une procédure pour un outrage avec des menaces de mort, vont repartir avec 150 euros d'amende. Quel message on essaie de faire passer ?
Les syndicats demandent aujourd'hui des sanctions plus sévères pour ceux qui agressent les agents. Fabien Vanhoenmeric est secrétaire général d'Alliance Police Nationale.
On attend tout simplement que la justice fasse son travail pour que les agresseurs de policiers prennent des peines incompressibles. C'est-à-dire le retour des peines planchées, mais non pas l'appréciation du magistrat comme auparavant, parce qu'elles n'étaient jamais appliquées, mais des peines systématiques, et peut-être qu'on réfléchira deux fois avant d'agresser un policier.
Les représentants des policiers souhaitent que cette question soit abordée lors du Beauvau de la sécurité qui a lieu en ce moment et jusqu'à l'été.
Reportage signé Nicolas Burnand pour RTL. Et concernant le verdict en appel du procès de Viry-Châtillon, Marine Le Pen, dans RTL Soir, s'est dite indignée par cette décision, même si elle est rendue au nom du peuple français. Elle a ajouté par ailleurs « Je souhaite à Éric Dupond-Moretti de retourner au barreau où il a obtenu plus de victoires que dans son ministère ».
Voilà, c'est dans ce contexte que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sera l'invité de Benjamin Sportouche. Ce sera demain matin à 7h40 dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL.
Opposants et promoteurs de la 5G s'affrontent sur cette question depuis le début de l'année, depuis le déploiement de la nouvelle génération de réseaux mobiles sur le territoire. Présente-t-elle des risques pour la santé ? A priori, non. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de rendre son avis très attendu. Mais ce que l'on retient également, Sophie Jousselin, c'est que l'on manque clairement de recul.
Oui, ce qui empêche de répondre très clairement à la question des dangers de la 5G. En France, cette 5G, elle est déployée sur trois bandes de fréquences. La première, on la connaît bien puisqu'on l'utilise déjà pour la 3G et la 4G. La ANSES, dans des études précédentes, a conclu à l'absence de danger d'exposition et reste sur la même position pour la 5G. La deuxième bande de fréquence est plus nouvelle. Elle est réservée à la 5G et les antennes commencent seulement à être déployées. L'agence a peu de données, mais a pu faire des simulations qui mènent aussi à la conclusion d'une absence probable de danger. Mais l'ANSES souligne encore le besoin de poursuivre les études. Quant à la troisième bande de fréquence, on ne l'utilise pas encore en France pour la 5G. Il faudra attendre 2 ou 3 ans. Et donc là, l'ANSES ne peut pas se prononcer. Là aussi, elle estime que des études doivent être menées, études qui devront en plus prendre en compte l'évolution de l'exposition aux ondes de la 5G, car on sait que cette technologie permet des débits très importants et pourra donc nous inciter à utiliser encore davantage tous les objets connectés, donc avec des temps d'exposition encore plus importants.
Merci beaucoup Sophie Jousselin du service qualité de la vie de RTL. La France perd un ami courageux. Message de l'Elysée après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Le chef d'État au pouvoir depuis plus de 30 ans est mort sur le front, tué par des rebelles dans le nord du pays. Dans son communiqué, Paris Faye exprime son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad. Il faut dire, Christophe de Croix, que son décès pourrait avoir de lourdes conséquences puisqu'il était un allié stratégique des Occidentaux dans la lutte contre le djihadisme.
Oui, Idriss Déby était à la tête de l'une des principales armées du G5, cette coalition des pays du Sahel contre les djihadistes. La France savait pouvoir compter sur lui et ses soldats sont considérés comme les plus aguerris de la région. 1200 militaires tchadiens participent ainsi à la sécurisation de la zone des trois frontières entre Niger, Mali et Burkina. La force Barkhane, celle de l'armée française, a par ailleurs installé son poste de commandement à N'Djamena, la capitale tchadienne. C'est donc un partenaire essentiel de notre guerre contre les djihadistes dans une région où les États voisins comme la Libye ou le Soudan sont souvent des États faillis. L'armée tchadienne fournit également l'un des principaux contingents des casques bleus de l'ONU au Mali. La France ne tient donc pas à perdre cet allié dans la région. Le Conseil militaire de transition, dirigé par le fils d'Idriss Déby, s'est engagé à respecter les accords internationaux. On verra si ce nouveau général Déby est capable de se maintenir au pouvoir et de résister aux assauts des rebelles qui ont tué son père. On verra aussi si la France est prête à considérer ce fils comme un héritier légitime, un héritier qui s'est arrogé le pouvoir en violant la constitution tchadienne.
Merci beaucoup Christophe de Croix, chef du service étranger de RTL. Aux États-Unis, Joe Biden prie pour que le verdict soit le bon au procès sur la mort de George Floyd, cet Afro-Américain mort lors d'une interpellation l'an dernier à Minneapolis. Le président américain estime que les preuves sont accablantes contre l'accusé, le policier Derek Chauvin. Le jury s'est retiré cette nuit pour délibérer.
Et puis en Russie, les avocats d'Alexei Navalny réclament son transfert immédiat dans un hôpital civil à Moscou. C'est, disent-ils, une question de vie ou de mort pour l'opposant à Vladimir Poutine, qui est extrêmement affaibli, disent-ils encore. Après 3 semaines d'une grève de la faim pour dénoncer son incarcération, on sait qu'hier, il avait été transféré dans la partie médicalisée de cette prison. On passe au foot avec les débuts des quarts de finale de la Coupe de France ce soir et en ce moment.
Exactement, les amateurs de Rumi Vallière en quête d'un exploit. Ils affrontent Toulouse, pensionnaire de Ligue 2 à Annecy depuis 25 minutes environ, Serge Puyot.
Oui, ça se passe très bien pour les amateurs de Rumi Vallière puisqu'ils mènent déjà 1-0 depuis la 19e minute. Un but de leur milieu de terrain, Mathieu Guillot, un coup franc à l'origine d'Alexis Peugeot, leur capitaine. La tête de Mathieu Guillot qui devance le gardien toulousain Peterson pour ouvrir le score ici au Parc des Sports d'Annecy. Forcément, les amateurs de Rumi Vallière, eh bien, y croient de plus en plus. 1-0 ici au Parc des Sports d'Annecy devant Toulouse après 30 minutes de jeu.
Serge Puyot en direct d'Annecy pour RTL. Et puis à partir de 21h, ce seront les amateurs de Canet, tombeurs de Marseille en 8e, qui tenteront de se qualifier pour le dernier carré. Ce sera face à Montpellier, des matchs à suivre en fil rouge sur notre antenne. Et puis on termine avec cette confirmation signée Nasser El Khelaifi, le président du PSG, interpellé par le journaliste d'une chaîne espagnole sur l'avenir de Mbappé au club parisien.
Mbappé stay in PSG?
Yes, for sure. Yes, for sure.
Mbappé va-t-il rester? Il va rester, yes, oui, c'est sûr, dit le président du club avant de s'engouffrer dans sa voiture.
Eh ben dis donc, c'est une sacrée info si c'est vrai.
C'est une confirmation, oui, apparemment.
Merci beaucoup à vous, Sébastien. Autre info, la météo. Et là, c'est moins sûr. Température printanière, quand
oui,
même, demain,
oui, ça, ça va. Franchement,
ça, ça va. Les températures, ça va.
Les températures, ça va. Et c'est vrai que côté ciel, ça se gâte un petit peu. Alors, commençons par les températures, ça, c'est la bonne nouvelle. En plus, pas de gelée demain. Demain matin, elles seront comprises entre 2 et 7 degrés au nord, jusqu'à 10 au sud. Et les maximales, elles seront douces. On a jusqu'à 20 degrés de prévu à Bordeaux et à Cognac, 19 à Toulouse comme à Rennes, 18 à Paris et Brest, 17 degrés à Metz et Limoges, 16 à Grenoble, 15 à Lille et Marseille, ainsi qu'à Bastia. Maintenant, côté ciel, c'est vrai que ça va se gâter dans le sud-est avec un ciel chargé, des averses toute la journée, de bonnes averses d'ailleurs sur le Roussillon le matin, de la neige en montagne dès 1500 mètres. Et puis ailleurs, le ciel sera bien dégagé sur la moitié nord en matinée, après dissipation de quelques grisailles sur les côtes de la Manche, sur les frontières du nord. Et dans l'après-midi, un temps plus variable entre nuages éclaircis, avec peut-être une petite averse entre le Grand Est, la région parisienne, en redescendant vers le Limousin jusqu'aux Pyrénées, mais dans la partie ouest du pays, surtout l'ouest, là, on va garder du beau temps.
Bon, est-ce qu'on peut dire que le meilleur est à venir? Ça va,
oui,
encore être mieux.
Exactement. Jeudi, une belle journée ensoleillée avec un soleil plus franc au nord de la Loire, mais du coup, c'est vrai que ce sera un petit peu plus frais aussi au nord. Encore quelques rares averses, mais uniquement sur les reliefs. Vendredi, plein soleil pour tous avec le retour de petites gelées, c'est vrai, au nord, mais des maximales très douces. Et puis un très beau week-end printanier en perspective avec une moyenne de 20 degrés au nord, 22 au sud, on sera au-dessus des normales. Juste quelques petites ondées possibles dimanche sur les Pyrénées et les Cévennes.
Dis donc, on y est là,
ça y est, hein, ouais. Hein, ça fait du bien. Hein.
Oh, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté un Goldman, non?
avant.
Ah ouais, tiens.
Vous l'avez pas fait hier?
Non, ça fait au moins 24 heures.
3 jours.
Oh ouais. Vous l'avez ou pas la chanson?
Oui. Ben oui, je te donne.
Ah oui. Et nous, on vous donne rendez-vous juste après la pub pour Le Monde tel qu'il est. Mais quand même, on l'écoute encore un petit peu, hein, Jean-Jacques, avec Michael Jones.
Pour le fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Allez, on envoie la pub quand même, à tout de suite.
RTL Soir.